Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Vous commencez à connaître la formule. Dans un mois très exactement, les électeurs des 27 pays de l'Union européenne se rendront aux urnes pour élire un nouveau Parlement européen. L'une des principales missions des 751 parlementaires qui seront alors élus, ce sera de voter le budget de l'Union européenne. Jusqu'à présent, le principal poste de ce budget, c'était le poste ou c'est le poste agricole, 40% du budget environ. Une bonne cinquantaine de milliards d'euros, 55, 60, on ne sait pas très exactement, on en parlera dans cette émission, sont consacrés tous les ans donc à la politique agricole commune, plus connue sous l'acronyme PAC, P-A-C. Mais la Commission européenne propose de réduire ce budget de quelques 5% environ par an à partir de 2020 et de réorienter la politique agricole. Alors, quelle réorientation? Est-ce un aveu d'échec ou au contraire un signe que la mission a été accomplie pour une agriculture européenne qui, inventée en 1957, a subi depuis lors d'innombrables transformations et doit maintenant s'adapter à de nouvelles réalités économiques et politiques dont on parle abondamment sur cette antenne. Question donc que je poserai à deux invités. Bonjour Quentin Mathieu.
Bonjour.
Quentin Mathieu, vous êtes économiste, jeune économiste, chargé de mission aux Chambres d'agriculture de France. Et avec vous dans ce studio, Frédéric Courleux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Frédéric Courleux, vous êtes le directeur des études du think tank Agriculture Stratégie. Avec vous, il y a deux semaines à peu près, on parlait agriculture internationale, le multilatéralisme. Aujourd'hui, on va parler d'une agriculture plus européenne, avec des reportages, bien sûr, dans cette émission. Nous irons dans les rizières italiennes avec Pauline Glaise, dans les campagnes grecques avec Charlotte Stevenard et dans les campagnes sénégalaises avec William Delesseux. Alors Quentin Mathieu, je vois que vous avez amené beaucoup de notes pour répondre aux questions. Alors je vais vous poser la première question. Comment se porte aujourd'hui l'agriculture européenne? D'abord, est-ce qu'on peut parler d'une agriculture européenne? Il y a 27 pays. Est-ce qu'il y a une agriculture, une seule?
Alors, c'est assez complexe de répondre à cette question, mais il faut comprendre que l'Union européenne est un espace qui dispose d'un potentiel agricole qui est extrêmement important, qui s'est construit au fur et à mesure de l'histoire de la PAC et qui a su s'imposer irrémédiablement à l'échelle internationale. Si l'on regarde, en fait, le poids de l'Union européenne dans les échanges commerciaux internationaux, bien, il apparaît que l'Union européenne est devenue la première puissance agricole à l'échelle mondiale et est passée devant les États-Unis, sachant que cette modification en fait de ce classement que l'on peut appeler l'exportateur à l'échelle internationale s'est opérée entre les années 80 et 90 où les États-Unis ont décliné et où l'Union européenne a continué de progresser et à prendre de plus en plus de parts de marché à l'échelle internationale.
Alors qu'est-ce que l'Europe exporte et où?
Alors, principalement, donc, l'Union européenne se caractérise par des positions dominantes sur les grandes cultures, en particulier donc sur le blé. La France, d'ailleurs, est l'un des principaux moteurs de cette économie du blé à l'exportation. On peut aussi citer le lait, donc, l'Union européenne est également aussi une des premières puissances laitières à l'échelle internationale. Et donc, en termes en fait de destination de ces exportations, donc principalement vers les pays tiers. Après, il faut distinguer par produit où vont justement donc ces différents produits. Pour le blé, on pense plus particulièrement aux zones africaines, donc aux pays d'Afrique. Et pour le lait, on pense plus spécifiquement à la Chine avec les exportations de poudre sur lequel l'Union européenne a une position dominante, en tout cas une position avantageuse.
Frédéric Courleux, comment s'est opéré ce renversement de rapport de force avec les États-Unis? Pourquoi?
Alors les élargissements successifs de l'Union européenne y ont largement contribué. Quand on était seulement 12, c'est sûr que la surface agricole utile, comme on dit dans le jargon, était beaucoup plus faible. Donc au fur et à mesure, notamment avec l'entrée des pays d'Europe de l'Est, il y a eu davantage de terres agricoles. Pour autant, les exportations, le solde des exportations agricoles et agroalimentaires, c'est 20 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de l'agriculture européenne de 400 milliards et de 1000 milliards pour l'agroalimentaire. agroalimentaire européen. Donc voilà, ça reste donc on est exportateur net, certes, mais si on regarde notamment en termes de surface, on est importateur net en termes de surface, du fait notamment des importations très importantes de soja et de plantes riches en protéines.
Alors, est-ce que cette agriculture européenne, c'est surtout une agriculture qui exporte de la matière brute, ou est-ce que c'est une agriculture qui fournit la base d'une industrie agroalimentaire européenne?
Alors, il y a les deux. Il y a à la fois, notamment sur les céréales, même si c'est en train de décliner assez largement, on est en train de devenir importateur net en céréales. Il y a des importations très importantes de maïs, notamment d'Ukraine en ce moment en Europe. On reste donc sur quelques secteurs dans lesquels on est producteur de commodités, comme on dit dans le jargon aussi. Et en ce moment, il y a le prix du porc qui explose véritablement du fait de la peste porcine en Chine. Mais à côté de ça, effectivement, il y a eu des stratégies de décommoditisation, notamment dans la viticulture, notamment dans les fruits et légumes.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez la décommoditisation? C'est un peu jargonnant.
La différenciation, chercher à produire des produits qui soient différenciés pour des clients qui cherchent des différences, un développement très important de l'agriculture biologique, mais voilà, il y a aussi les appellations d'origine contrôlées. Tout ça se développe beaucoup et fait la variété de l'agriculture européenne, qui est d'une variété assez incroyable. On est exportateur pour la plupart des produits sous nos latitudes.
Quant à Mathieu, oui, l'agriculture européenne, c'est une agriculture qui est basée sur quoi? D'abord la fourniture du marché intérieur des 27 ou sur l'exportation?
Et effectivement, en fait, si l'on regarde les chiffres donc du commerce intracommunautaire, ces chiffres sont extrêmement importants. À l'échelle du commerce international, ça représente près de 30%, rien que nos échanges intracommunautaires.
C'est-à-dire que les échanges entre la France, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne,
exactement.
C'est tout ça, oui. La Lituanie, enfin les Pays-Baltes, tout ça, c'est 30% du commerce agricole mondial.
C'est ça, exactement.
Donc c'est très important.
C'est extrêmement important, et ce qui prouve, en fait, si on regarde plutôt d'un point de vue optimiste, hein, c'est que la PAC a permis aussi de mettre en relation toutes ces synergies et d'exploiter pour chacun de ces pays des avantages qu'ils pouvaient avoir sur leur territoire. Si on pense par exemple à l'Espagne ou à l'Italie, ce sont des exportateurs de fruits et légumes extrêmement importants et qui ont développé une véritable industrie grâce à ces avantages.
Frédéric Courleux, est-ce qu'il y a un nord, un sud, un est, un ouest dans l'agriculture européenne, ou est-ce que tout ça s'est homogénéisé?
Non, bien sûr, il y a toujours des différentiels de pédoclimatiques entre le nord de l'Europe, la Finlande et la Grèce, c'est évident, bien sûr. Il y a une certaine part de spécialisation qui se produit, mais qui, d'un point de vue agronomique, ne sont pas forcément optimales. Hein. La monoculture n'est jamais très bonne d'un point de vue agricole. La diversité, on la retrouve globalement aussi à l'échelle de la France. On a, grosso modo, en France, les grandes plaines littorales du nord-ouest qui font l'élevage comme à l'échelle européenne, les montagnes qu'on retrouve au centre de l'Europe, le sud-ouest et le sud-est sur les fruits et légumes, sans oublier les grandes plaines. Donc on retrouve la diversité de l'agriculture européenne dans nos frontières françaises, ce qui rend la tâche assez compliquée pour nos négociateurs à Bruxelles, parce que contrairement à certains pays qui ont une ou deux productions à défendre, nous, en France, on a des positions à défendre dans les différentes filières.
Oui, quant à Mathieu.
Exactement. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que cette diversité de l'agriculture française, eh bien, elle transparaît même lorsqu'on le regarde en termes de puissance agricole, puisque la France est la première puissance agricole européenne.
Elle n'a pas été dépassée par l'Allemagne?
Non, elle n'a pas été dépassée par l'Allemagne.
Alors, on est premier producteur, l'Allemagne est importateur net, oui. Mais se développe grandement et grappille petit à petit, et se développe énormément en matière d'exportation, mais voilà, reste importateur net l'Allemagne.
Alors, tout à l'heure, quant à Mathieu, vous énumériez les pays vers lesquels l'Europe exportait, vous disiez on exporte du lait, la poudre de lait vers la Chine, mais aussi une autre zone vers laquelle on exporte du lait, la poudre de lait, c'est l'Afrique. Alors, il y a plusieurs manières de dire les choses, d'un point de vue purement marchand que vous avez adopté. On dit que l'Europe exporte une partie de sa production laitière vers l'Afrique. Et si on se veut un peu critique, un peu militant, on peut formuler ça autrement et dire, comme le disent beaucoup de gens, que l'Europe se débarrasse de ses excédents de production en Afrique. Et c'est le cas avec le Sénégal. Le pays est un grand importateur de lait et de lait en poudre venu du vieux continent, venu de chez nous les Européens, au détriment de la production locale, peu compétitive et qui peine à s'imposer. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé William Delesseux dans la région de Dakar.
Au beau milieu de la zone d'Eniaye, en banlieue de Dakar, une centaine de vaches laitières. C'est le pari réussi de Ndiaye Ndoye à la tête de l'exploitation dans ce terrain battu par les vents.
On est dans l'étable principale. Elle vient de la traite. Donc on fait la traite deux fois dans la journée, le matin et l'après-midi. Et de retour de la traite, elles prennent leur ration.
L'agriculteur a peu à peu agrandi sa ferme.
On a fait une importation en 2017 de 80 génisses, ce qui nous a permis d'augmenter un peu la taille du cheptel.
Des vaches venues d'Europe afin d'éviter l'importation de lait du vieux continent. Ici, elles produisent en tout 1500 litres de lait par jour. C'est 14 litres par tête. Un bon score, mais l'équilibre est fragile. Le nerf de la guerre, c'est l'alimentation des animaux.
Notre défi ici, dans ces fermes, notre objectif, c'est d'aller dans les cultures fourragères à fond pour réduire les charges alimentaires. Et du coup, réduire fortement le coût de revient du litre de lait et rendre le lait, notre lait très compétitif. On va y aller de manière graduelle, on va grignoter sur les volumes importés jusqu'à aboutir à une autosuffisance. Mais pour l'instant, on est obligé d'importer parce qu'il faut que les gens consomment du lait. Mais l'objectif à terme pour nous, producteurs, et pour l'État aussi, c'est de réduire graduellement les volumes importés et jusqu'à éventuellement aboutir à une autosuffisance en lait.
Direction la laiterie du Berger, en plein cœur de Wakam, au nord de Dakar. Bagoré Batili, le fondateur, est sur le quai de déchargement de son entrepôt.
Tous les soirs, il y a un camion qui arrive de Richard Toll, qui amène à peu près 20 tonnes, disons, hein, 20 tonnes de yaourt. Et dans la nuit, il va être déchargé ici.
Le chef d'entreprise a fait le pari de transformer en crème, en yaourt, en fromage, du lait local.
C'est beaucoup plus aléatoire que commander un conteneur de poudre de lait. On demande aux consommateurs de consentir à payer plus parce qu'ils sentent qu'il y a une qualité différente. Donc il faut des produits vraiment différenciés. On a embarqué le gouvernement là-dedans parce que lui aussi a un rôle. Et on a réussi, en travaillant avec eux, à identifier des exonérations nécessaires qui permettaient aux produits 100% locaux. Donc, parce que pas transformé, hein, considéré comme pas, le lait frais en fait, considéré comme pas transformé, de ne pas payer de TVA. Ce qui fait que tout ce que donne le consommateur reste dans la filière.
Élevage peu compétitif, production désorganisée, le chemin est encore long pour la filière. Car le lait européen importé, même en poudre, reste moins cher. 35 centimes le litre en moyenne contre le double pour le même produit issu de vaches du Sénégal.
Un reportage signé William Delesseux au Sénégal. Frédéric Colle, qu'est-ce que vous entendez dans ce reportage ?
Il y a des enjeux énormes avec le développement des productions animales en Afrique, c'est évident. On l'a vu en Europe dans les années 60-70, la polyculture élevage, c'est un modèle qui a fait ses preuves en termes de développement économique. Malheureusement, aujourd'hui, vu les faibles protections aux frontières que les pays africains doivent subir, on paralyse et on empêche assez largement ce développement-là.
Vous voulez dire on paralyse ? Qui paralyse ?
L'Union européenne. L'Union européenne a une responsabilité, notamment avec les accords APE, voilà, qui ont été en grande partie imposés aux pays africains et qui, notamment sur le lait, n'ont pas pu protéger comme ça a pu être fait sur la volaille ou sur les oignons. Notamment au Sénégal, ils ont pu développer largement ces productions-là en contrôlant un peu des importations venues d'Europe qui sont effectivement à des prix de dumping qui sont à des prix très bas, qui profitent d'un certain nombre de dispositifs de politique publique, mais qui surtout causent autant là-bas que chez nous des problèmes à nos agriculteurs. Et il y a une campagne assez forte qui a été faite début avril en ce sens et qui a la particularité d'associer à la fois des ONG de développement, mais aussi des syndicats agricoles français, européens, pour dénoncer le fait que l'absence de maîtrise de la production de lait nuit autant à nos producteurs en Europe, mais aussi aux producteurs africains.
Vous partagez ce point de vue, Quentin Mathieu ?
Oui, je suis entièrement d'accord, et je rajoutais qu'aussi l'un des gros problèmes que peut rencontrer un pays comme le Sénégal, dans son objectif justement d'arriver à une autosuffisance en termes de production laitière, c'est la présence de firmes multinationales et de coopératives très puissantes qui ont des outils de production qui sont installés au Sénégal. On pense notamment à Nestlé, Lactalis est également implanté là-bas, des coopératives comme Sodial, comme Glambia également, et que ces entreprises installées sur place en fait importent le lait européen pour des questions aussi d'économie d'échelle, d'économie de coûts, de transactions, pour pouvoir produire justement des produits laitiers à des prix très compétitifs et donc qui entravent le développement d'une filière laitière locale.
Je vous voyais opiner du chef en entendant parler de la laiterie du Berger, c'est un endroit que vous connaissez ?
J'ai déjà entendu parler effectivement de cette laiterie, et justement pour qui était en quelque sorte une espèce de modèle justement pour essayer de promouvoir la production locale, et comme il a été dit dans le reportage aussi, de rechercher cette recherche de valeur ajoutée avec des produits différenciés locaux, parce que justement les goûts des consommateurs sénégalais aussi avec le développement économique sont en évolution et aussi réclament davantage de qualité.
Alors Frédéric Courleux, qu'est-ce que c'est que cette agriculture européenne qui s'est mise en place dans les années 60 et à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure avec ce mix agro-pastoral?
Alors,
et qui pourrait servir de modèle aux pays africains selon vous?
On appelle ça plutôt dans nos latitudes la polyculture élevage. On pourrait appeler ça maintenant avec le vocable à la mode l'économie circulaire en agriculture, c'est-à-dire l'exploitation de la complémentarité entre l'élevage et les cultures, où on va avoir directement ces flux et ces transferts de matière et d'azote et qui vont pouvoir permettre un développement de la production. Surtout sur des petites surfaces et surtout avec une exploitation de la main-d'œuvre familiale. C'est ça les deux grandes dimensions de ce modèle de polyculture élevage. Elle permet un développement sur une faible surface et elle peut employer assez largement la famille et au-delà.
Quentin Mathieu, ces années 60, ce sont aussi les années qui ont vu l'élaboration, la naissance de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la politique agricole commune. Sur quel fondement est-ce que ça a été créé ?
Bien, alors lors de l'entrée donc de la politique agricole commune, donc de sa mise en place en 1962, il y a cinq grands axes qui déterminaient donc la politique agricole commune. La première, c'est d'augmenter donc la productivité de l'agriculture. Il faut savoir qu'on était au sorti de la Seconde Guerre mondiale et que le premier objectif, c'était vraiment de moderniser l'agriculture européenne et d'arriver à une autonomie alimentaire. D'autre part aussi, cette PAC a introduit la notion d'un revenu équitable pour les agriculteurs, en même temps aussi qu'elle devait assurer un prix suffisamment bas ou acceptable pour les consommateurs. Et deux grands objectifs aussi qui étaient, qui pour moi sont primordiaux dans la PAC, hein, et qui étaient donc dans ses piliers, c'est la sécurité des approvisionnements et enfin aussi la stabilité des marchés, qui est certainement un moteur essentiel de la PAC, en tout cas dans son esprit.
Frédéric Courleux, comment est-ce qu'on a déterminé ces objectifs, ces axes ?
La PAC de l'époque s'est construite à partir des politiques agricoles à l'œuvre dans les différents pays fondateurs de l'Europe, les six États membres. Et les différents pays avaient connu des trajectoires assez similaires, où en gros on avait copié ce qui se passait aux États-Unis et la branche agricole du New Deal, qui était une politique très interventionniste.
Rappelons que le New Deal, c'est la politique mise en place après la grande crise de 1929
par Roosevelt,
Franklin Delano Roosevelt dans les années 30.
Tout à fait. Donc il y a eu
une politique de subvention, d'emploi public, de grands travaux, etc.
Voilà.
Keynésienne.
Donc en agriculture, voilà, d'inspiration keynésienne, il faut stimuler la demande et il faut pouvoir aussi réduire l'offre parce que l'offre ne produit pas systématiquement la demande qui permet de l'écouler, et donc on peut avoir des problèmes de surcapacité ou de surproduction en agriculture. On connaît bien la chose. Quentin a très justement rappelé les différents objectifs de la PAC initiale. Il y en a deux qui peuvent paraître contradictoires à premier lieu, mais qui ne le sont pas. C'est le niveau de vie des agriculteurs et les prix bas acceptable ou acceptables pour les consommateurs. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le schéma de cette première PAC qui s'est déroulée des années 60 au tout début des années 90, en donnant suffisamment de stabilité et de perspective aux agriculteurs, elle les a incités à se moderniser et donc à augmenter leur productivité et donc à baisser leurs coûts de production. Donc au final, ça a été gagnant-gagnant à la fois pour les producteurs se sont modernisés et les consommateurs qui ont eu petit à petit des prix de plus en plus bas.
Mais cette politique agricole commune, quant à Mathieu, vous me démentirez si je me trompe, elle s'est basée aussi sur des fortes subventions, c'est-à-dire de l'argent public.
Pas nécessairement, parce que le
et sur un protectionnisme.
Alors oui,
c'était
alors
c'était plus de la protection.
Plus de la protection, voilà.
Il n'y a pas de subvention avant 92.
Exactement, sachant que en fait le principal outil qui était utilisé dans cette PAC jusqu'aux années 90, c'était surtout des prix minimums garantis, et donc avec justement l'Europe qui rachetait. Enfin, qui en tout cas garantissait un prix minimum aux producteurs ou rachetait une partie de sa production. Donc c'est pas tellement de la subvention, ça permettait surtout de stabiliser le marché et de donner aussi une perspective de long terme pour les agriculteurs, vu étant donné qu'ils savaient à quel prix au minimum ils allaient être payés. Et cela permettait aussi de faire des investissements.
Oui, Frédéric Courleux, donc pas de subventions, mais des prix garantis, c'est-à-dire des stocks.
Pour les agriculteurs, les subventions n'arrivent qu'en 92.
Restons dans les 30 premières années d'abord.
Mais avant, dans cette période-là, il y avait effectivement tout un système qui existe encore en grande partie, même si les prix minimums ont été largement baissés depuis. Donc ces prix minimums faisaient que l'État était, donc à l'époque la CE, était l'acheteur en dernier ressort. Et donc quand le prix baissait jusqu'à un certain niveau, se déclenchait automatiquement l'achat public qui faisait que les acheteurs privés ne pouvaient pas proposer de prix plus bas. Donc tout ne passait pas par les stocks publics, mais ça donnait un plancher sur lequel on ne pouvait pas descendre.
C'était une politique très vertueuse, quant à Mathieu ?
Relativement, oui. Enfin, en tout cas, on l'a vu. Ce qui est incroyable, en fait, lorsqu'on regarde l'histoire de l'évolution de la PAC, c'est qu'on sortait d'une Europe ruinée, d'accord, qui dépendait énormément des importations pour son approvisionnement alimentaire, même de base, et qu'en l'espace de tout juste 25-30 ans, on a réussi à atteindre une autosuffisance alimentaire. Et donc, c'est pour ça que ce système, il était extrêmement vertueux, c'est que ça nous a permis de sortir de la misère alimentaire. Il faut se rappeler quand même que les gens faisaient la queue et il y avait du rationnement pour pouvoir se nourrir.
Jusqu'au début des années 50.
Jusqu'au début France. Des années 50. Donc, en soi, ça a été un système extrêmement vertueux, avec certes l'effet pervers qui peut être illustré donc quelque part au Sénégal, c'est qu'il y a eu beaucoup de surproduction et qu'il fallait trouver un débouché. Et donc ça a été le marché exportateur. Donc c'est peut-être aussi un reproche que l'on peut faire à la PAC. D'un autre côté, pour les Européens aujourd'hui, il faut aussi se rendre compte qu'ils ont la chance de pouvoir manger à leur faim, de pouvoir avoir 3 repas de qualité par jour.
Frédéric Courleux.
Donc la PAC a été au final victime de son succès. C'est-à-dire qu'elle a très bien fonctionné pendant 30 ans. Elle a donné aux agriculteurs un cadre incitatif. Ils savaient qu'ils n'allaient pas se faire avoir par leur acheteur. Donc ils pouvaient faire des investissements, se moderniser, intégrer du progrès technique. Et ils sont devenus, l'Europe est donc devenue exportatrice nette sur quelques produits dès la fin des années 70, début des années 80. Et donc là, pour maintenir l'équilibre au niveau de notre marché intérieur, deux solutions se présentaient à nous, soit mettre des quotas de production pour ne pas avoir à exporter nos surplus, on ne les produirait plus, soit justement utiliser des subventions à l'exportation pour se débarrasser de nos surplus.
Alors on va préciser les choses, des quotas de production, c'est-à-dire on dit à la filière sucre, à la filière lait, vous avez tant de millions de tonnes à produire cette année, c'est ça ?
Exactement.
Et on descend dans la chaîne jusqu'au producteur en lui disant toi, tu sur tes champs, sur tes plantations de canne à sucre, pas de canne à sucre, mais de betteraves, tu produis tant de tonnes.
Exactement.
C'est comme ça que ça s'est passé.
Alors, sur le sucre, les quotas sont venus en place en 1968. Ouais. Le lait, ça a été un peu plus tardif, 1984, les fameux quotas laitiers. La logique sur le lait était assez claire. On savait très bien, vu la structure des coûts de production, que baisser drastiquement le prix du lait n'aurait pas entraîné une réduction de la production. On aurait eu une très grosse crise du côté des producteurs. Donc, on a mis en place des quotas de production à ce moment-là, pour avoir à utiliser le moins possible de subventions à l'exportation. Malgré tout, on en utilisait, vu que le volume de quota global, c'est un peu technique, a été fixé à 6% de plus que la consommation européenne. Donc on avait toujours 6% à exporter, et pour ces 6%-là, il fallait utiliser des subventions à l'exportation. Donc voilà, c'est bien le tournant des années 80 qu'il faut avoir en tête, qui s'est présenté à l'époque. Soit on maîtrisait nos productions pour ne pas avoir à exporter de surplus, pour garder notre équilibre sur le marché intérieur, soit, et c'est l'option qui a été choisie bon an mal an, on s'aligne sur des prix internationaux et on met des subventions pour compenser le revenu des agriculteurs contre cette baisse.
Sachant que je rajouterais juste sur ce point-là, c'est aussi que les années 80 correspondent quand même à une période aussi où la PAC commence à être contestée, notamment sur les moyens budgétaires qui sont mis en œuvre. On pense aussi à Margaret Thatcher, par exemple, qui avait demandé à
la première ministre britannique
qui avait demandé le fameux chèque, hein,
ouais. I want my money back.
Voilà, exactement. Et la PAC faisait justement partie de son propos.
Ça coûtait de plus en plus cher à exporter. Alors c'est le paradoxe, c'est que quand on était importateur net, on taxait des importations, donc ça faisait des ressources budgétaires pour le budget de l'Union européenne. Mais étant devenu exportateur net sur le lait, sur les principales céréales, la PAC a commencé à coûter alors que précédemment elle rapportait au budget de l'Union européenne.
Alors est-ce que cette évolution de la politique agricole commune était isolée ou est-ce que chez tous les autres grands producteurs comme les Américains, la même évolution se faisait jour, Frédéric Courleux?
Tout à fait. Il faut bien avoir en tête que la grande réforme qui commence à se dessiner dans les années 80 et qui aboutit en 1992 provient d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont vu les Européens leur passer devant en termes d'exportation de céréales en 83-84, alors que les Américains étaient les régulateurs du marché international.
Les États-Unis
ont des grandes plaines, avaient à l'époque voilà un potentiel encore sous contrôle. Il y avait des quotas, il y avait de la jachère, qui est une forme de quota. En 1983, les Américains gèlent un tiers de leur surface et ont quasiment une récolte d'avance dans leur stock public. Donc ils essayent de réguler par tous les moyens le marché international pour éviter qu'il sombre dans le dumping et dans des prix trop bas, et face à cette stratégie de régulation, ils voient les Européens qui, eux, à coup de subventions à l'exportation, vendent, bradent et coulent le marché international qu'ils essayent, eux, de réguler, et là, ça a été, voilà, le Rubicon a été franchi, et ça a entraîné une remise en cause assez forte des fondamentaux qui provenaient du New Deal de Roosevelt, et qui donc a entraîné une remise en cause des fondements de l'intervention publique qui prévalait jusqu'alors.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons, vous l'aurez compris, de l'agriculture européenne, de la politique agricole commune, avec deux invités, Quentin Mathieu, chargé de mission aux Chambres d'agriculture de France, économiste comme Frédéric Courleux, qui lui est directeur des études du think tank Agriculture Stratégie. Alors on va se rapprocher un peu de nos années 2019. Vous y faisiez allusion tous les deux en 92, un grand tournant dans la politique agricole commune. Qu'est-ce qui se passe en 92, Frédéric Courleux?
Donc en 92, on met en place de la jachère, 15%.
On ne cultive plus, quoi. On laisse la terre se reposer.
Voilà, on paye les agriculteurs pour ne pas cultiver. Donc ça, c'était la principale demande des Américains qui en avaient marre qu'on leur coupe l'herbe sous le pied en termes d'exportation. Et surtout, en Europe, on baisse les prix minimum à un niveau très bas, au niveau du prix international de l'époque, et on compense donc les agriculteurs avec des subventions directes qui vont faire une grosse part de leurs revenus.
Quant à Mathieu?
Oui, en sachant que justement cette réforme de la PAC en 1992 s'inscrit dans la création de l'Organisation mondiale du commerce deux ans plus tard, en 1994, et où l'ambition de l'OMC, qui est aussi grandement impulsée par la volonté des États-Unis de vouloir retrouver davantage de leadership, et donc vise justement à que la politique agricole européenne change d'orientation, passe donc à des aides directes aux agriculteurs qui sont considérées comme moins distorsives.
Qu'est-ce que ça veut dire, moins distorsives?
Alors, c'est-à-dire que elle donne un avantage en termes de coûts justement pour les agriculteurs, et ce à quoi donc les Américains ont contesté justement ce système, et le fait de passer à des aides directes aux agriculteurs permet en fait de limiter cet effet distorsif.
Frédéric Courleu, sur cet effet distorsif, vous pourriez nous l'expliquer aussi ?
Oui, donc c'est un principe assez central en économie agricole qui s'appelle le principe du découplage des aides. Alors, pour l'expliquer simplement, faut avoir en tête qu'à l'époque, on se dit de manière assez juste, si on verse des subventions aux agriculteurs quand ils ont des problèmes de revenus et que ces subventions sont proportionnelles à la production, on va aggraver le problème qu'on voulait résoudre. D'accord. Donc, on se dit, il faut verser les subventions indépendamment de la production. Ça, c'est quelque chose qui semble assez juste d'un point de vue économique. Le problème, c'est qu'on a associé ce bon sens avec une croyance dans les vertus autorégulatrices des marchés, et on a pensé à l'époque qu'il suffisait de supprimer les politiques agricoles pour que les marchés reviennent à leur niveau d'équilibre d'eux-mêmes. Donc voilà, on est baigné dans les années 80. Dans cette...
C'est ce qu'on a appelé les Reaganomics.
Voilà, dans cette mythologie
du président américain de l'époque.
De cette mythologie du marché autorégulateur, des marchés efficients. Donc on a dit, voilà, il suffit de ne plus avoir de distorsion pour que les marchés retrouvent leur niveau d'équilibre et donc remontent, puisqu'on était dans un contexte de prix bas. Le problème, on le verra par la suite, c'est que toute cette politique et toute cette trajectoire qui a été donc gravée dans le marbre de l'OMC 1994-1995, nous a conduit à la crise alimentaire de 2007-2008.
Alors, certains des bénéficiaires de cette politique agricole commune, ce sont, parmi les 27 pays européens, on a choisi les Grecs, les agriculteurs grecs qui restent très dépendants des aides de la politique agricole commune. Aujourd'hui, presque 40% de leurs revenus dépend des subventions européennes. Pourtant, le quotidien des agriculteurs reste difficile, là-bas, à Athènes et autour. Dans le sud-ouest de la Grèce, c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Charlotte Stevenard.
La voiture de Fragos Zanetos serpente entre les oliviers. Cet agriculteur de Rhora, dans le Péloponnèse, est à la retraite depuis 2 ans, mais avec une pension de 500 euros mensuels, il continue de travailler. Il a connu l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne en 1981 et la politique agricole commune des débuts.
À cette époque, on recevait beaucoup d'aides, jusqu'à 10 000 euros par an. Puis ça a diminué. Aujourd'hui, nous recevons la moitié, entre 4 500 et 5 000 euros. Au début, ces aides évoluaient en fonction de la production. Tu étais payé en fonction du nombre de kilos récoltés.
Puis cela a dépendu notamment du nombre d'hectares, ou plutôt d'ares, car en Grèce, les parcelles sont très petites. Mais les contrôles n'ont pas toujours été très stricts, dit-il.
Aujourd'hui, les autorités vous demandent le contrat. Comment tu as obtenu le terrain, où il se trouve, sa topographie, le plan. On commence seulement à mettre en place un cadastre en Grèce. Jusque-là, on n'en avait pas. Par exemple, ce champ, 3 personnes pouvaient le déclarer et elles arrivaient à toucher toutes les 3 des subventions.
Des exagérations qu'un autre agriculteur du village dit ne pas avoir connues. Alors qu'il taille ses oliviers, Fotis Massios raconte qu'il devait devenir ingénieur, mais lorsqu'il a décroché son diplôme en 2012, la crise battait son plein. Ce fils d'agriculteur s'est alors installé à son compte. Il a obtenu 17 000 euros grâce au programme pour les jeunes agriculteurs et il attend encore une aide pour acheter des machines. Il a eu accès aux subventions sans avoir besoin de connaître quelqu'un dans l'administration, comme c'était souvent le cas avant. Les choses vont dans le bon sens, selon lui.
Je pense qu'il y a moins de passe-droits, mais il faut que les procédures soient un peu plus rapides, qu'on diminue la bureaucratie. Or, nous, en Grèce, la bureaucratie, on connaît. Il faut que nous progressions là-dessus.
À l'université capodistrienne d'Athènes, le professeur Napoléon Maraveillas connaît bien la politique agricole. Cet ancien ministre rappelle que les agriculteurs grecs étaient très pauvres avant l'arrivée des aides européennes. La montée brusque du niveau de vie a eu des effets pervers, selon lui.
Jusqu'en 90-92, quand la réforme de la politique agricole commune a débuté, le financement des agriculteurs grecs était généreux. Cela a eu deux conséquences. Les revenus des agriculteurs et la vie à la campagne ont changé, mais par ailleurs, comme ces revenus étaient très satisfaisants et très soudains, cela a poussé les agriculteurs à se reposer sur leurs lauriers, et cela a limité leur envie de se moderniser, comme c'est souvent leur cas.
Il estime que les choses se sont améliorées, mais il y a encore beaucoup de problèmes. Les quelques 700 000 agriculteurs grecs constituent un groupe de population peu éduquée et âgée, ce qui ne favorise pas l'innovation nécessaire pour être aujourd'hui compétitif et moins dépendre des aides de l'Union européenne.
Un reportage signé Charlotte Stivenard dans le Péloponnèse, donc pas loin d'Athènes. Frédéric Courleux, ce reportage, est-ce qu'il illustre l'évolution de la politique agricole commune au-delà de l'évolution de l'agriculture grecque?
Très bien, très bien. J'ai relevé deux points. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a une baisse des subventions en Grèce parce que il y a un processus d'homogénéisation des montants d'aide à l'hectare. Et la Grèce avait des montants assez élevés parce que certaines productions étaient très soutenues quand c'était des aides couplées à la production. Et donc, c'est le deuxième point, et ça a été bien dit dans le reportage, c'est que l'agriculteur nous a bien dit qu'au début, il touchait des aides en fonction des hectares de blé qu'il faisait ou du nombre de
plutôt des hectares d'oliviers,
donc de la production. Alors il y a un peu de blé dur là-bas, mais d'oliviers. Et donc petit à petit, c'était la deuxième grande réforme un peu moins importante que la première malgré tout en 2003, où on est passé d'un soutien à la production couplé à la production à un soutien découplé. Donc on a converti en fait les aides couplées précédentes en titres, en droits à paiement qui pouvaient être échangés. Et que l'agriculteur va recevoir chaque année la subvention qui est associée, peu importe ce qu'il va produire.
C'est-à-dire même
s'il décide
d'arracher
ses oliviers pour faire des fraises, il aura la même subvention.
Quant à Mathieu?
Je rajouterais aussi que dans le reportage, il pourrait y avoir un étonnement comme quoi un jeune agriculteur touche davantage d'aide, mais ça paraît logique, en fait. C'est pour aider à l'installation de ces nouveaux agriculteurs et leur permettre de faire les investissements nécessaires pour démarrer leur activité. Donc, c'est pour ça que, certainement, que le premier agriculteur dont on a parlé s'étonnait de que son voisin touche plus, mais ça rentre aussi dans une certaine logique, hein. C'est pour permettre vraiment l'installation de ces nouveaux agriculteurs, qui plus est sur l'olivier, qui est une production reconnue en Europe.
Alors, je disais en introduction de cette émission que le budget de la politique agricole commune aujourd'hui, c'était quelques dizaines de milliards d'euros par an, 55, 60.
55.
Ouais. Comment est-ce que c'est réparti les Grecs? Combien est-ce qu'ils touchent? Est-ce que c'est stable ou est-ce que ça varie en fonction des négociations annuelles, Frédéric Courleux?
Alors, c'est des négociations qui ont lieu tous les 7 ans. Qui sont directement des négociations en lien avec le cadre financier pluriannuel européen, donc le budget de l'Europe pendant 7 ans. Et c'est la force et la faiblesse de la PAC, c'est que on a une très grande visibilité sur ce qui va être dépensé. Les différents pays savent 7 ans à l'avance combien ils vont recevoir et combien ils vont distribuer à leurs agriculteurs. Donc la force, c'est la lisibilité. La faiblesse, c'est que quand une politique, on sait 7 ans à l'avance combien on va dépenser, c'est souvent une politique dans laquelle les mots et les notions d'efficacité ou d'efficience sont pas vraiment travaillés.
Pourquoi ?
Donc on est dans une logique de consommation budgétaire. On donne des aides aux hectares, peu importe la production, peu importe que les prix soient hauts ou bas, on arrose. On arrose de subventions de manière aveugle. C'est ça la grande faiblesse de la PAC actuelle.
Vous êtes d'accord avec ça, quant à Mathieu? Vous qui travaillez dans les chambres d'agriculture, donc qui défendez les agriculteurs normalement?
Justement, une des activités des chambres d'agriculture, c'est de faire du conseil et c'est aussi d'expliquer les différentes modalités administratives pour toucher des aides. On accompagne les agriculteurs dans ces activités. Et ce qui a été dans le reportage, justement, une des critiques adressées à cette nouvelle PAC, c'est qu'il y a davantage de législatives, il y a davantage de papiers à remplir. C'est aussi pour s'assurer davantage que les dépenses sont efficaces aussi, sont bien ciblées. Et c'est un reproche qu'on refait encore aujourd'hui au niveau de la PAC, parce que c'est encore insuffisant pour s'assurer de l'efficacité de ces dépenses.
Quand Frédéric Courleux dit qu'on arrose un peu tout le monde de manière indifférenciée et que donc c'est peu efficace, vous en pensez quoi?
Alors j'emploierais peut-être pas le terme arroser, mais effectivement la question du ciblage de ces aides est essentielle aujourd'hui parce que vous savez, on contribue donc à ce budget de la PAC, on veut savoir où va l'argent et à quoi il est destiné. Donc ça paraît évident aujourd'hui qu'il faut aussi quand même recentrer justement cette question, et sachant que certaines exploitations n'ont pas forcément besoin de ces aides aujourd'hui pour survivre. Et il faut aussi qu'il y ait une meilleure redistribution, que ce soit déjà entre les différents secteurs agricoles et entre les pays.
Alors une autre manière d'aider les producteurs agricoles européens, c'est d'établir des barrières douanières. Voilà un exemple. Le riz italien fait face à une sévère concurrence asiatique. Et pour aider ces riziculteurs italiens, l'exécutif européen a décidé à la mi-janvier dernière de réintroduire des droits sur les importations de riz en provenance du Cambodge et de Birmanie. Des taxes douanières pour 3 ans, 175 euros par tonne importée la première année, 150 la deuxième, 125 euros par tonne les années suivantes. Une victoire pour l'Italie qui avait demandé des mesures de protection en ce sens. Le Cambodge va faire quand même appel, et même si le tribunal de l'Union européenne confirme la décision de Bruxelles, cela pourrait ne pas suffire pour venir à bout de toutes ces difficultés. C'est un reportage d'Ecodici Eco d'ailleurs, entre Turin et Milan, au cœur de la région risicole italienne, signé Paul Inglaise.
Mardi matin, à la bourse de commerce de Vercelli, le jour où dans le grand hall central, acheteurs et intermédiaires discutent affaires. Giuseppe Sarasso préside la commission des prix du Padi, le riz encore recouvert de son enveloppe. Récemment, certains prix ont un peu augmenté, notamment pour des raisons de plus faible récolte, mais pas pour toutes les variétés.
Les taxes ont été réintroduites de manière partielle. Elles sont de nouveau imposées pour le riz qui arrive déjà travaillé et qui peut aller directement sur les étals des supermarchés. Mais les lobbies de Bruxelles, qui s'en sont mêlés, quand ils ont écrit le décret, ils ont oublié d'inscrire le riz décortiqué. Un riz que les grands transformateurs d'Hambourg ou de Rotterdam importent par bateau à l'état quasi brut. Ils le blanchissent, ils l'empaquettent ici, et ils le revendent chez nous. Eux, ils sont parvenus à défendre leurs intérêts.
Alors, vous voyez, le riz, c'est meilleur que l'autre.
Deux poids, deux mesures. Cela interpelle Pier Marcello Castelli, un courtier.
C'est une question politique. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les associations agricoles, ils n'ont pas pressé pour avoir des décisions favorables à eux.
Est-ce que le riz italien est un marché qui a encore de l'avenir ?
Le dommage, c'est qu'en Italie, à partir de l'Italie, nous avons exporté tout dans le monde. Le gelato, la pizza, les vins et tout. Et ce que nous ne sommes pas réussi à exporter, c'est le risotto.
Que les recettes de risotto n'aient pas séduit les papilles du monde entier, ce n'est pas qu'une question d'honneur gastronomique. Cela limite les débouchés des variétés de grains plus gros adaptés à ce plat.
Questo gigante, Vercelli.
Dans sa ferme familiale, aux portes de la capitale du riz, Maurizio Tabacchi souligne les dommages qu'il attribue à la concurrence asiatique.
Les importations de riz des pays qui n'avaient pas le dazio étaient surtout des riz lunghi bi, des types indica.
Les importations qui n'étaient pas soumises aux taxes, c'était surtout du riz long de type indica. Les prix de ces riz étaient très bas, alors les agriculteurs ont davantage cultivé d'autres variétés, des riz ronds, des riz pour le risotto. Les productions de ces variétés ont augmenté et sont alors arrivées sur le marché en grande quantité. Et donc l'effet est double.
Et quindi l'effet est stato il doppio.
Maurizio Tabacchi ne croit pas que le retour partiel des taxes est un effet immédiat. Il aimerait que la situation soit analysée chaque année pour une adaptation au marché plus rapide. Mais les droits de douane ne sont pas la seule solution.
Pourquoi pas une meilleure organisation des agriculteurs pour fournir des quantités adaptées au marché et ne pas être dans la situation où une année on cultive beaucoup de telle variété et peu de telle autre et où l'on déséquilibre le marché. Et puis il faut valoriser le produit européen qui d'un point de vue sanitaire est beaucoup beaucoup plus sûr que celui d'autres pays.
Un souhait de meilleure organisation qui transpire de ses attentes sur la politique agricole commune post-2020.
Io mi aspetto dalla nuova PAC di dare magari un pochettino.
J'attends de la nouvelle PAC, peut-être qu'elle donne un petit peu moins d'aide directe à la production, mais qu'elle favorise les stockages, la coopération entre les agriculteurs, afin de mettre en place des groupes d'achat et de vente. Il faut que l'on soit un peu plus innovant du point de vue de notre structure. Mais si l'on n'avait pas la PAC, la production de riz devrait baisser de 20 ou 30%, et alors peut-être que cela satisferait le marché. Sinon, ça n'est pas viable.
Non è sostenibile, ecco.
Questi sono i sacchi di riso da seme.
Ok.
Alessandro Beccaro, lui aussi riziculteur, a vu comme d'autres baisser les aides de la PAC, mais comme d'autres, ce qu'il réclame surtout à l'Union européenne, c'est d'harmoniser ses exigences.
Si elle me demande d'être attentif à la biodiversité pour préserver le paysage, veiller sur les fleuves et les torrents, pour que l'on garde un produit de très bonne qualité, elle doit exiger des importations, sinon les mêmes conditions, au moins les mêmes contrôles, avec des règles différentes. On ne peut pas participer à la même course parce que dans ce cas, on perdrait dès la ligne de départ. Ils ont des prix de production plus bas que les nôtres.
Cette problématique-là, estime-t-il, n'est pas propre à la riziculture et se poserait à toute l'agriculture européenne.
Un reportage signé Pauline Glaise en Italie chez les riziculteurs. Frédéric Courleux, vous partagez ce point de vue de ce dernier intervenant qui dit les conditions de concurrence ne sont pas adaptées au marché mondial en quelque sorte.
Alors je pense que ce monsieur faisait référence aux normes en termes d'utilisation de certains pesticides et aux normes aussi qui imposent aux agriculteurs d'avoir certaines surfaces pour préserver davantage la biodiversité. La question c'est voilà celle du level playing field, comme on dit en anglais, comment on fait en sorte que la concurrence puisse avoir lieu sur un terrain propice où chacun joue à armes égales sur un terrain plat. Je souligne aussi dans ce reportage la question de l'organisation économique des producteurs. Je suis pas du tout spécialiste de cette filière-là en Italie, mais voilà, ce qui vient d'être dit indique qu'il y aurait du côté d'une meilleure organisation des producteurs quelques chances de récupérer davantage de valeur ajoutée. Parce
il
que
parle
c'est,
aussi
c'est là
l'enjeu. D'une nouvelle PAC.
Alors, il parle de la PAC dans la mesure où les surfaces en riz avaient des montants d'aide aux hectares de riz très très élevés. Et petit à petit, avec ce mécanisme de convergence, d'harmonisation dont on a parlé tout à l'heure pour la Grèce aussi, les montants que touchent les hectares dans ces zones-là sont en train de baisser de manière assez importante année après année.
Quant à Mathieu, il y a une nouvelle politique agricole commune qui est en préparation.
Qui est en préparation, effectivement, et l'un des axes de cette politique agricole, c'est effectivement de renforcer la position des producteurs dans la chaîne de valeur agroalimentaire qui, jusque-là, était uniquement réservée à certains secteurs agricoles. Alors, les fruits et légumes et certaines productions, notamment en AOP et IGP, se sont centrées, justement, ont bénéficié de ces incitations. Le lait sort justement quand la crise a démarré au début des années 2010, où il y a eu déjà une première crise de prix, pour le lait, des mesures ont été mises en place, et ensuite il y a eu le paquet lait, alors Frédéric peut-être pourra en parler un peu plus longuement,
oui,
avec la crise laitière de 2014, et en fait, toutes ces dispositions, elles vont être élargies à l'ensemble des productions, et je pense que c'est dans ce sens, dans le reportage, justement, que ce producteur attend, c'est de pouvoir structurer davantage les producteurs, massifier l'offre, et peser sur les acteurs en aval des chaînes de valeur agroalimentaire.
C'est ça le sens de cette réforme qui se prépare, Frédéric Courleux ?
C'est un point fort et intéressant de cette réforme, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans la continuité, et on voit pas vraiment leur intérêt. Celui-ci, ici, est effectivement important. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'arroser au sens d'arroser du sable. Parce que quand on donne des subventions aux agriculteurs alors qu'ils sont en situation de faiblesse d'un point de vue de négociation avec leurs acheteurs qui sont de plus en plus concentrés, sans parler de la grande distribution qui est maintenant dans une situation d'oligopole au niveau européen, avec quelques acteurs qui les comptent sur les deux mains, on a ce phénomène d'arrosage de sable où au final, les subventions ne profitent pas tant aux agriculteurs qu'au reste de la filière parce que les subventions, on les a versées dans un contexte où on a dérégulé les marchés.
Frédéric Collet, on pourrait continuer encore longtemps cette conversation. Avec vous, j'ai l'habitude de le dire, on pourrait faire une troisième émission, c'est la deuxième sur les questions agricoles, avec Quentin Mathieu aussi, mais malheureusement cette émission est maintenant terminée. Merci à vous deux, Frédéric Courle et Quentin Mathieu, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter sur notre site internet www.rfi.fr ou sur votre smartphone en téléchargeant, si ça n'est pas déjà fait, l'application Pure Radio. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.